au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Au fil des pages, vous emmène aux extrémités de notre planète Terre, l'Arctique et l'Antarctique. Respectivement grandes de 21 millions et 14 millions de kilomètres carrés pour des températures oscillant entre moins 70 et moins 50, ces deux espaces abritent une variété incroyable d'oiseaux, d'otaries, phoques et autres éléphants de mer. Oui, mais voilà, des menaces nombreuses pèsent sur la préservation de cette biodiversité. Le réchauffement du climat qui provoque la fonte des glaces et toutes les conséquences que l'on devine, le déficit d'ozone, sans compter l'accumulation de ces polluants que nous déversons sans cesse dans les océans. Actuellement, par exemple, les baleines qui se retrouvent échouées sont tellement polluées qu'elles sont incinérées dans des centres spécifiques habituellement réservés aux déchets dangereux. Nous allons donc survoler ces deux immenses territoires pour observer sa beauté et prendre enfin la mesure de sa fragilité. C'est en compagnie de Michel Gauthier-Clair et Yvon Lemahaut que nous allons faire ce voyage. Messieurs, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie, au cœur de l'Institut de France. Vous avez publié aux éditions Buchet-Chastel en 2007, Pôle en péril. Michel Gauthier-Clair, vous êtes l'auteur de ce livre. Yvon Lemahaut, vous l'avez préfacé. Michel Gauthier-Clair, vous êtes vétérinaire de formation, chargé de recherche à la station biologique de la Tour du Valat, en Camargue. Vous vous intéressez de très près au manchot royal et vous avez publié une vingtaine d'articles scientifiques à ce sujet. Et aujourd'hui, plus que jamais, comme vous me le disiez en préparant cette émission, vous vous intéressez et vous travaillez sur les maladies animales que l'on appelle donc les zoonoses, des oiseaux sauvages. Yvon Lemahaut, vous êtes écophysiologiste, directeur de recherche au CNRS à Strasbourg, président du Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité, le MEDAD, et bien sûr membre de l'Académie des sciences. J'ajoute enfin que vous êtes aussi le commissaire de l'exposition Les glaces polaires qui a lieu actuellement au musée océanographique de Monaco. Alors justement, Yvon Lemahaut, commençons par vous, si vous le voulez bien. Dans votre préface de ce livre, donc « Pôle en péril », vous insistez sur l'importance de la recherche en milieu polaire. Vous insistez également sur l'encadrement du tourisme dans les zones arctiques. Mais alors justement, le tourisme ne jouerait-il pas en faveur d'une prise de conscience des conséquences de la main de l'homme sur la fragilité de cette biodiversité ?
C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, en tant que scientifique travaillant dans les régions polaires, nous n'avons évidemment pas l'exclusivité de la possibilité d'aller de découvrir ces régions. D'un autre côté, nous connaissons bien sûr, plus que d'autres, probablement la fragilité de ces écosystèmes et donc le tourisme ne peut pas se développer n'importe comment pour cette raison.
Ce réchauffement climatique que l'on observe actuellement au pôle n'est-il pas une simple accentuation, finalement, d'un phénomène qui, de toute façon, aura lieu ? Michel Gauthier-Clair, peut-être.
Si on se place sur de très grandes échelles, effectivement, on peut dire qu'il y a des phases de refroidissement, de réchauffement, mais ce qui est très particulier, là, depuis quelques dizaines d'années, c'est la vitesse de ce réchauffement. Donc on est vraiment dans quelque chose de nouveau par rapport à ce qui a été observé auparavant. Si on prend l'Antarctique, le continent a déjà subi des grandes modifications de son climat, un très fort refroidissement, mais qui s'y fait sur des millions d'années. Donc des espèces de manchots qui étaient adaptées à des milieux tropicaux, petit à petit se sont adaptées et sont devenues ce qu'on connaît maintenant comme le manchot empereur. Là, un manchot qui vit quelques dizaines d'années va vivre probablement ce changement climatique. Donc, il n'a pas le temps de s'adapter assez rapidement à ces modifications.
Voilà, il n'y a pas assez de temps pour que l'espèce évolue en parallèle avec l'évolution du climat.
Exactement. La particularité, c'est que ces changements qui sont dus à l'homme sont tellement rapides que les espèces n'ont pas le temps, n'ont pas assez de générations pour évoluer et avoir. Donc, elles ne peuvent vivre que sur leur capital. Donc, certaines sont assez flexibles et pourront s'adapter et d'autres ne pourront pas du tout s'adapter.
Pourtant, dans votre livre, et vous l'expliquez très bien, il y a donc 50 millions d'années, les manchots mesuraient pas moins de 2 mètres et pesaient 100 kilos. C'est quand même assez impressionnant. Peut-être que dans 20 millions d'années, de nouveau, ils feront 2 mètres et 100 kilos.
Alors, ils le feront si ils arrivent à passer la crise actuelle. Et c'est un peu le problème. C'est-à-dire que si ça s'étalait sur des millions d'années, ces changements, on sait qu'ils iraient vers leur, pourquoi pas de nouveau des manchots de grande taille, selon les contraintes qu'ils ont sur eux. Mais là, sur des dizaines d'années, on n'a pas d'adaptation de ce type-là. Donc, il faut qu'ils arrivent à passer cette crise pour qu'on puisse après avoir potentiellement d'autres adaptations.
Yvon Le Mao, la biodiversité, c'est justement le sujet sur lequel vous vous passionnez et un sujet que vous revendiquez. Justement, qu'est-ce que l'on peut dire sur la biodiversité dans les pôles ?
La biodiversité, elle est remarquable parce qu'il y avait des animaux qui, comme on l'a dit, se sont adaptés, ont développé des mécanismes tout à fait extraordinaires qu'on ne trouve pas ailleurs. Et chaque espèce animale, en fait, est unique. Chaque espèce animale est une innovation. Et pour revenir à cette échelle de temps, j'entends souvent dire, mais c'est de l'incompétence, la vie a toujours repris le dessus. Oui, mais il faut 1 million d'années pour faire une espèce. Et nous avons beaucoup à apprendre des mécanismes adaptatifs de chacune de ces espèces.
Poursuivons sur ce livre. Nous n'allons pas pouvoir évoquer tous les thèmes, notamment la partie historique sur la découverte des pôles, mais intéressons-nous aux enjeux géostratégiques, encore plus pointés à l'heure actuelle avec cette crise de l'énergie. En 1959, il y a eu donc la signature du traité de l'Antarctique, qui considère que le pôle sud est un continent de paix et de science, gelant les prétentions territoriales. Il y a eu une crise dans les années 80, qui finalement s'est apaisé en 91, qui aboutit à un protocole qui désigne depuis l'Antarctique comme réserve naturelle consacrée à la paix et à la science. Mais ce protocole date de 91. Aujourd'hui, en 2008, avec la crise énergétique que l'on observe, le gaz, le pétrole, est-ce que de nouveau il ne va pas y avoir la tentation de créer des puits de pétrole et de gaz naturel dans l'Antarctique ?
Bien sûr, alors ces traités sont... Il a été possible en Antarctique parce que l'exploitation, enfin pour pas être dupe, hein, l'exploitation est extrêmement difficile et la science a quand même servi d'alibi à beaucoup de pays pour être présents et dire on fait de la science. Donc les prétentions sont gelées, mais parce qu'il y a une difficulté d'exploiter en fait ces zones. Si on se tourne du côté de l'Arctique, on voit que là il n'y a pas du tout cette notion très je dirais démocratique, humaniste, de paix et de science, et que là, les pays sont très crispés sur... et même ça se crispe encore actuellement de façon assez forte, hein, puisque le changement climatique devient une vraie réalité, et le Canada, le Danemark, les États-Unis sont en train déjà de se positionner, la Russie, de se positionner sur la partie nord. Sur la partie sud, c'est sûr que à partir du moment où il y aura une mise en valeur économique possible, il va falloir être vigilant, puisque la science ne reste pour l'instant qu'un alibi.
À l'heure actuelle, par exemple, ce protocole est menacé ou pas du tout ?
Actuellement, on peut dire qu'il n'est pas menacé, mais il me semble en tout cas. Mais il faut savoir qu'il n'est pas si démocratique et si mondialiste que ça, puisqu'il y a certains pays qui n'ont absolument pas accès quand même à ces zones. Donc les pays qui ont au départ réussi à avoir des territoires, même si c'est considéré comme un territoire international, en fait ils ont leur part, bloquent quand même l'accès à d'autres pays.
Yvon Le Mao, peut-être souhaitiez-vous réagir sur ce thème ?
Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Michel Gauthier-Clerc. Les conditions ne sont pas du tout les mêmes en Arctique et en Antarctique. Et effectivement, il y a des problèmes à la fois de ressources minières, mais aussi de territoires navigables qui vont devenir disponibles. Et donc, c'est partie des enjeux actuels.
Alors, venons-en à la main de l'homme et notamment de la pollution. Alors, j'étais très surprise en lisant votre livre, Michel Gauthier-Clerc, sur les polluants que l'on retrouve au pôle et notamment au sein même des animaux, par exemple, dans les graisses de l'ours polaire en Arctique, eh bien, on retrouve des pesticides. Comment on explique que l'on retrouve des pesticides chez l'ours polaire ?
Alors ça, c'est un très bon exemple qui montre que les pôles ne sont pas du tout isolés de nous. Et en fait, on est complètement reliés aux pôles, à la fois dans ce qu'on nous, on leur envoie. Donc ils reçoivent direct tous les polluants, à la fois par les océans, mais aussi par l'atmosphère. Par exemple, l'exemple de l'ours polaire. Vous avez énormément de polluants qui arrivent par l'intermédiaire des chaînes trophiques, c'est-à-dire que les polluants s'accumulent au fur et à mesure des consommateurs. Donc par l'intermédiaire des poissons qui peuvent être au large de l'Atlantique, puis ensuite migrer en Arctique. Mais aussi, il faut savoir que toutes les villes russes, bon, je ne vais pas pointer que la Russie, mais on va dire toutes les villes du pourtour de l'océan Arctique, en fait, c'est extrêmement habité. Il y a beaucoup de villes et il y a également beaucoup de fleuves qui vont drainer à la fois l'Asie et le nord de l'Amérique et qui vont déverser directement les polluants dans l'océan Arctique.
Alors j'imagine que le schéma est le même pour ces fameux manchots dont on retrouve dans les ailes du plomb. Alors avoir du plomb dans l'aile, c'est une expression, mais on retrouve aussi du plomb dans les ailes de manchots.
Ça c'est un bon exemple qui montre que l'ensemble des habitats, des milieux sont reliés, notamment par l'intermédiaire des courants océaniques. Et ça montre aussi que notre activité ici, quand on est dans une ville, par exemple aujourd'hui comme à Paris, On n'est pas isolé des pôles et on a un impact direct sur ces zones-là, même si elles nous semblent très éloignées et très isolées de nous.
Sur la main de l'homme, il y a aussi bien sûr tous ces accidents pétroliers. Est-ce que on sait si, par exemple, les dégazages sont plus nombreux au pôle ?
Non, parce qu'au pôle, si vous voulez, il y a quand même peu de navires. Les navires sont très limités, donc de ce fait, le risque est plus réduit.
Si la glace arctique, la banquise arctique, absolument, avec les ouvertures des passages au nord, on pourrait avoir un trafic bateau assez important et aussi des accidents de ce fait pétrolier.
Mais là, les grandes compagnies pétrolières ont changé d'attitude, c'est-à-dire que maintenant, elles soutiennent des recherches permettant d'avoir un état zéro de l'environnement.
Donc
ça, c'est quand même une démarche nouvelle par rapport auparavant, on commençait après coup.
Et qui n'est pas forcément dans une démarche de communication auprès du grand public pour s'acheter une bonne conduite, pas spécialement.
Je ne sais pas parce que non, je n'irai pas jusque là. Je pense que vous savez, au sein même des compagnies pétrolières, vous avez de plus en plus, notamment parmi les plus jeunes, de gens qui sont sensibles aux défis, aux enjeux de l'environnement.
Alors Michel Cottier-Clair, toujours dans votre livre « Pôle en péril », vous parlez bien sûr de toutes ces pollutions et également de ces scientifiques qui au début, quand ils sont arrivés pour la conquête de ces pôles et ces recherches scientifiques, étaient également peu scrupuleux en laissant de l'essence, des plaques d'amiante. Vous parlez aussi de cette pollution-là.
Je dirais peut-être pas peu scrupuleux, mais je dirais une perception différente de l'environnement.
D'accord.
C'est dire que les scientifiques ne sont pas sont humains, donc font des erreurs comme les autres. Et en fait, en suivant les scientifiques, notamment dans leur activité dans les pôles, on suit aussi la perception différente de l'homme par rapport à la nature. Donc c'est vrai qu'au début, si on prend il y a 50 ans ou il y a 40 ans, il n'y avait pas du tout les mêmes précautions qui étaient prises dans les activités même scientifiques. Pourtant, mais les gens qui étaient les scientifiques en général, les biologistes, qui ont été les premiers à alerter sur les problèmes, mais eux-mêmes n'avaient pas la même perception de l'environnement et de la biodiversité. Et on voit avec les générations, chez les scientifiques comme dans la société, une perception qui est de plus en plus fine et vigilante par rapport à l'environnement.
Alors, autre sujet dont on entend beaucoup parler, ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui activent ce processus de réchauffement climatique et qui, là, enclenchent un cercle vicieux où, avec la fonte des glaces, les glaces, en fait, ont un processus de réverbération, donc le soleil est reflété. Là, avec ces glaces qui fondent, ça va accentuer encore ce réchauffement climatique. Peut-être que Yvon Lemao aimerait expliciter ses propos un peu confus.
Non, pas tant que cela. En fait, ce qui me gêne un petit peu dans oui, le débat actuel, c'est que très souvent, lorsqu'on entend parler de changement climatique, on a le sentiment que le vivant constitue au mieux le décor. Alors que c'est le fond. C'est le fond. Vous entendez quand Al Gore est venu à l'Élysée lors des conclusions du Grenelle, il n'a pas eu un mot sur la biodiversité. C'est assez étonnant, alors qu'en fait, s'il y a bien une justification à une inquiétude sur le changement climatique, c'est bien celle de son impact sur le vivant. Et pour en revenir à votre exemple des glaces, il n'y a pas uniquement que l'effet de la fonte de la glace du point de vue physique, il y a aussi le fait que, par exemple, le krill, qui représente la plus grande biomasse, la biomasse de krill sur notre planète est même supérieure à la biomasse humaine. Le krill est très sensible à une variation de quelques dixièmes de degrés de température. Et la fonte de la glace, ça veut dire aussi que disparaît un substrat qui est essentiel pour la reproduction du krill. Donc vous voyez là, s'amorce un scénario désastre par rapport à une biomasse qui est essentielle pour toute la chaîne trophique polaire.
Alors est-ce que justement cette fonte des glaces, c'est de l'eau douce, est-ce que ça va jouer aussi à terme sur la salinité de l'eau et donc sur, de nouveau, la biodiversité ?
Il va y avoir les deux types de glaces, parce que la banquise fondante, c'est la banquise bien sûr, qui est d'abord un élément essentiel pour la reproduction du krill, banquise qui est recouverte éventuellement d'un peu de neige lorsque la neige tombe, c'est un peu d'eau douce, mais c'est essentiellement une glace de mer, et puis de l'autre côté, mais je pense que Michel peut en parler aussi, des conséquences de la fonte du continent antarctique ou du Groenland qui la représente de l'eau douce.
Moi, je voudrais rajouter sur les changements climatiques, parce que c'est bien, on en parle beaucoup, ça a permis une prise de conscience générale au niveau des politiques, du public sur ces changements climatiques, Mais il faut voir que c'est quelque chose qui est à venir, quoi, sur 20, 30, 40 ans. Donc c'est bien, les gens en ont pris conscience actuellement. Et notamment, et ça a été longtemps contesté, hein, même au sein de l'Institut. Donc maintenant, tout le monde, a priori, est conscient que c'est en train de se passer et que c'est l'action de l'homme qui en est responsable. Mais il ne faut pas oublier ce qui se passe déjà actuellement. Et il y a plein d'autres changements, et plein d'autres, ce qu'on appelle les changements globaux, qui ont actuellement un impact beaucoup plus fort que les changements climatiques. Par exemple, la surexploitation des ressources. Donc prévoir ce qui va se passer au niveau des ressources avec le changement climatique, c'est bien, mais il faut déjà agir aussi actuellement sur ce qui se passe, sur les pollutions, sur l'invasion d'espèces exotiques, sur la surexploitation des ressources. Donc il y a plein d'autres facteurs qui sont actuels, sur lesquels il faut agir. Et ne parler que du changement climatique, c'est se projeter sur 30 ans, dans les 30, 50 prochaines années, c'est bien, mais ça cache un peu ce qui se passe déjà actuellement.
Vous parlez justement des espèces exotiques. Je voulais également en parler, donc c'est très bien, la transition est toute trouvée. Les espèces exotiques, c'est ce que l'homme a apporté sur les continents, en tout cas l'Arctique.
Voilà, directement ou indirectement. En fait, c'est la conséquence de la globalisation des échanges. Donc c'est à la fois l'homme qui va dans des zones où il n'allait pas auparavant, donc c'est vrai, au départ, ça a été les scientifiques, quand ils ont construit des bases, bon, bah, ils ont amené des nouvelles plantes, etc. Et puis, c'est, par exemple, l'eau de ballast dans les bateaux. Donc, vous avez de l'eau qui est rejetée un peu partout, donc des coquillages, des crabes, plein d'espèces, même des maladies maintenant qui sont introduites, donc qui n'existaient pas à un endroit et qui arrivent à se développer, qui prennent la place d'autres ou qui sont en compétition avec d'autres espèces. Donc, c'est un phénomène qui est global et qui est très inquiétant.
Donc, c'est le cas, par exemple, des lapins, par exemple, gargalettes.
Ah voilà, donc ça c'est quelque chose qui a eu lieu donc il y a déjà 200 ans, où là c'était une introduction volontaire pour avoir à manger. Donc ça c'est quelque chose qui a eu lieu assez fréquemment sur le globe. Et puis maintenant on a une accélération de ces phénomènes. Donc vous avez des mouches par exemple sur les îles Kerguelen, vous avez en Arctique le renard roux qui remplace le renard polaire, des fois par des introductions aussi, vous avez plein de choses comme ça.
Et qui finalement nuisent à la diversité des espèces qui étaient déjà présentes
initialement. Remplacer des espèces, par exemple, comme on parle des pôles, des espèces polaires sont remplacées par des espèces tempérées. Vous avez des concurrences, par exemple, à Kerguelen, vous allez avoir la mouche Califora, donc c'est une mouche de chez nous, qui va concurrencer une mouche locale qui n'avait jamais rencontré auparavant de compétiteurs de ce type-là. Quoi.
Pour terminer cette émission sur une note un peu plus joyeuse, vous avez travaillé sur les manchots, vous vous êtes donc déplacé. Qu'est-ce qui vous a le plus touché, justement, en vous rendant au pôle? C'est la luminosité, c'est ce silence avec cette banquise qui se craquelle, ou est-ce que ce sont les manchots eux-mêmes qui vous ont ému? Quelles ont été vos expériences les plus touchantes?
Moi, c'est le fait d'y rester longtemps, c'est le temps long d'être là-bas et d'être coupé en fait de la société, c'est-à-dire du quotidien. Je prends par exemple l'exemple de Crozet, c'est d'être dans un rythme, je dirais, naturel, de vivre avec la nature et d'être coupé donc c'est assez dur à expliquer parce que ça se met en place, hein, pendant des mois, et puis on rentre dans un certain processus où on oublie le rythme quotidien rapide. Et en étant là-bas, moi j'avais l'impression que le monde sautait sur place, enfin, le monde humain. Donc c'était voilà ce sentiment-là que j'avais. Mais après, quand on revient dans la société, on repart dans ce brouhaha.
Vous étiez resté combien de temps?
Par exemple, Crozet, c'était 15 mois d'affilée. Mais bon, en 4 ou 5 mois, on rentre dans un certain processus dans la tête.
Ouais, et vous, Yvon Le Mao?
Je parlerai de l'Antarctique, puisque Michel Gauthier-Claire a parlé de Crozet. L'Antarctique, c'est d'abord un paysage auquel on n'est pas habitué, une mer gelée, donc des couleurs extraordinaires. Et puis un monde étrange, je veux dire, quand le jour ne dure qu'une heure et demie, où on voit le soleil apparaître au fond sur une mer dont les icebergs sont prisonniers, et puis redescend tout de suite, c'est le côté étonnement d'abord.
Donc il y a toute une poésie de la nature à préserver.
Et des verts, des bleus auxquels on n'est pas habitué.
Eh bien, je vous remercie de nous avoir rendu visite. Je vais rappeler le titre de votre livre, Pôle en péril, Michel Gauthier-Claire, Yvon Le Mao, publié aux éditions Buch et Chastel en mars 2007. Et donc, nous invitons à lire cet ouvrage et à consulter aussi les très belles photos qui sont de Michel Gauthier-Claire lui-même. Eh bien, merci beaucoup et à une prochaine fois pour un prochain ouvrage, j'espère.
Merci.